doctorante, doctorant ou jeune docteur, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat et au concours iPhD, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Élodie Chabrolet et avec mes invités, nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce concours.
Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur cette chaîne YouTube parce que, comme vous le savez, j'étais en rédaction. Mais c'est terminé et du coup, pour fêter ça ce soir, je suis en compagnie de ma tendre Élodie Chabrol et en compagnie de jeunes chercheurs qui sont un peu particuliers parce que c'est des jeunes chercheurs qui ont décidé d'entreprendre. Et donc, ce soir, on est là pour parler de tout ça, pour parler de l'entrepreneuriat parce que souvent, c'est des choses... qui font un petit peu peur et on a plein de questions. Donc voilà, on va discuter de tout ça avec Élodie. Élodie, comment tu vas ?
Eh ben, je vais très bien et surtout, je voudrais te féliciter d'avoir fini d'écrire ta thèse il y a 2 jours et d'être là avec nous ce soir parce que c'est quand même une prouesse. Bravo.
Ouais,
bravo.
Bah, ça me manquait quand même hein, de discuter avec vous, donc je suis très contente. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Lucie, Alexandre et Habib et donc voilà, on va parler 1h30 tous ensemble. Mais avant de passer aux questions, on va peut-être demander à nos invités de faire une petite présentation et du coup, bah, Lucie, si tu veux commencer, la parole est à toi.
Bah, bonjour à tous. Du coup, moi, mon projet porte sur le biocontrôle. Donc, vous savez, c'est l'utilisation d'organismes vivants pour lutter contre des ravageurs des cultures. Donc, typiquement, c'est quand on utilise des coccinelles pour lutter contre les pucerons. Voilà, mais au cours de ma thèse et de mes travaux de recherche, on a une petite idée pour améliorer les programmes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre, en tout cas.
Et toi, Alexandre, quel est ton
Bonjour,
projet ?
Alors,
bien sûr, de vous et tout, encore plus en détail, à quel moment vous avez postulé pour le concours, quand est-ce que vous avez créé votre start-up et tout. Là, pour l'instant, on présente juste le projet. Alexandre, tu nous en dis un peu plus sur le tien ?
Du coup, moi, mon projet, c'est OrgaScreen. Et donc, en fait, on développe une biotech dans le domaine de la santé. Et donc, on aimerait proposer aux industries pharma des tests d'affinité avec leurs molécules médicaments et des protéines intracellulaires. Et en fait, on a fait un constat, c'est que les protéines intracellulaires, elles étaient très dures à étudier. Et du coup, notre techno, on essaie d'extraire en fait des objets intracellulaires à haute fréquence et de valoriser ces objets pour faire des tests d'affinité avec des molécules médicaments. Voilà.
Hop. Et pour finir, Habib. Alors, Habib, moi, je triche un peu parce qu'en fait, on était en conférence il n'y a pas si longtemps que ça, lui et moi. Du coup, je connais déjà son projet. Mais vas-y, on t'écoute.
Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Habib Laïd et je porte le projet NextMat 3D. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est des biomatériaux imprimés en 3D en tant que substitut osseux. Donc, en fait, on fait de l'impression 3D des biomatériaux pour faire de la reconstruction de l'os lorsqu'on a de l'os manquant dans certaines pathologies. Et là, actuellement, sur le projet, c'est au niveau du dentaire qu'on s'applique, notamment pour de la chirurgie pré-implantaire, donc c'est-à-dire quand on manque d'os pour poser un implant. Donc nous, le but, c'est d'imprimer un biomatériau à façon pour poser un implant dentaire derrière.
Super. Bah écoutez, je sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais on peut peut-être leur demander quand est-ce que vous avez postulé, là, où est-ce que vous en êtes là maintenant, et quand est-ce que vous avez postulé. Donc, vous êtes lauréat 2021, tous les trois. Ça veut dire qu'en gros, vous avez eu le prix cet été, si je ne m'abuse. Donc, à quel moment vous avez postulé je vais relancer sur Alexandre, mais voilà, c'est pur hasard. Quand est-ce que tu as postulé? À quel moment ça en était du projet déjà? Et puis toi, dans quel moment dans ta carrière tu en étais, postdoc, PhD? Raconte-nous tout.
Moi, du coup, dans ma carrière, elle était très courte, puisqu'en fait, j'ai postulé, c'était dans la dernière année de ma thèse. Donc, en fait, là, je viens juste d'avoir ma thèse en décembre.
Félicitations.
Merci. Et donc, j'ai postulé, ouais, c'était dans la dernière année de ma thèse et le projet, il en était vraiment à son tout début. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait un sacré potentiel sur le projet. On était en train de commencer à breveter la techno. Et c'est là où j'ai vu le concours iPhD. Je me suis dit, bah tiens, il faut tenter. Et du coup, je me suis associé avec un autre doctorant de mon labo qui a des compétences qui sont complémentaires aux miennes. Et on s'est dit, bon, allez, on y va. Et finalement, ça s'est fait sur la fin de ma thèse, quoi. Et donc là, j'ai commencé à suivre le programme là sur la fin de ma thèse, vraiment pendant la période de rédaction. Donc c'était pas évident de tout faire, mais c'était costaud quoi. Mais bon, franchement, c'était cool.
Et j'ai une petite question. Est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que tes encadrants t'ont poussé à ça ou vraiment l'idée est venue de toi? Et s'ils t'ont pas poussé, comment ils l'ont accepté? Enfin, comment c'est passé pour eux vu que tu étais en plus en période de rédaction?
Ça, c'est une très bonne question. Donc en fait, moi, pendant la deuxième année de ma thèse, j'ai suivi un programme, une formation entrepreneuriale à l'université PSL. Et du coup, pendant le programme, j'ai entendu parler justement du concours IPHD. Mais vraiment, c'était à 2-3 semaines avant la deadline du concours. Et donc là, je me suis dit, bah, tiens, ce programme, ce concours, il correspond exactement à ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'avais dit à mon directeur de thèse, j'ai envie de postuler là-dessus. Lui, dans tous les cas, il était chaud parce qu'il m'a toujours encouragé dans cette direction. Et j'avoue que par rapport à ça, j'ai pas mal de chance parce que j'ai un directeur de thèse qui m'a toujours encouragé dans cette direction. Allez, lance-toi. Dans tous les cas, je te soutiendrai. Donc franchement, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Franchement, c'était cool.
Ouais, c'est vraiment chouette. Les autres, c'est quoi vous en êtes à quel stade, Lucie?
Alors, du coup, pour reprendre un peu les questions sur l'historique, c'est vrai que moi, j'ai candidaté au concours, mais enfin, pour l'histoire, à la base, je voulais faire de la recherche académique. Moi, il n'y avait pas vraiment d'autres options possibles quand j'étais plus jeune, dirons-nous, parce que j'ai soutenu ma thèse en 2018. Donc maintenant, ça fait plus de 3 ans. Donc, je fais partie des vieux. Je ne pourrais même plus postuler à IPHD cette année. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est de mon entourage qui est venu me voir en me disant qu'il avait une idée et que, enfin, basé un peu sur nos discussions et tout ça, de start-up. Et au début, je lui ai dit non, mais je pense que t'es complètement fou. Et moi, c'est la recherche académique ou rien. Et 6 mois après, une fois que j'ai fini mon postdoc, je me suis dit, bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça ou est-ce que j'ai envie de créer un peu mon propre projet perso? Et c'est là qu'en janvier donc dernier, on a décidé de se lancer là-dedans. Et donc, on a rédigé le concours IPHD, le dossier du concours IPHD très, très vite. Et on a dû mettre une semaine, peut-être deux, grand max, pour rédiger le projet. Et c'est passé. Donc, franchement, voilà, même si là, il ne reste pas beaucoup de temps, n'hésitez pas, vous pouvez carrément le faire. Et du coup, aujourd'hui, ça nous a, dans le cadre de notre projet, ça nous a énormément aidé d'être lauréat IPHD parce que déjà, on a de la reconnaissance. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça a du sens. On n'est pas complètement hors des sentiers battus. Il y a des gens qui nous suivent et qui nous expliquent, qui nous montrent. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et c'est tant mieux parce qu'eux, ils sont au courant de tout ce qu'on ne sait pas. Donc, nous, on a la techno et eux, ils ont tout le reste. Donc c'est vraiment bien. Et après, il y avait une autre question. Par exemple, je rebondis sur la question de l'encadrant. Alors moi, du coup, je suis partie en postdoc, je suis revenue et je suis allée voir mon directeur de thèse et je lui ai dit « je veux faire une entreprise basée sur une partie de ce que j'ai trouvé pendant ma thèse ». Il m'a dit « ah d'accord ». Et puis on est parti là-dessus parce que, comme Alexandre, j'ai de la chance parce que j'ai quelqu'un qui me suit à 1000%. En fait, je pourrais lui dire n'importe quoi et il me dit « d'accord » parce que… voilà, on se comprend vachement bien et on discute beaucoup. Et du coup, j'ai eu vraiment de la chance sur ça. C'était pas du tout son environnement à la base. Mais voilà, je lui explique tout ce qu'il faut faire et il le fait. Et voilà.
C'est génial. Alors, tu as répondu à toutes les questions qu'on va te poser ce soir, probablement. Donc, tu nous as fait un petit récap. Non, mais c'est très bien. On ira probablement plus en détail. Toi, tu avais une question, Mathilde?
Ouais, j'avais une question parce que du coup, je connais bien ton associé, Lucie. Ouais. Et donc, il était encore en thèse quand vous avez lancé le projet. Donc, toi, tu ne l'étais plus. Je voulais savoir comment ça s'est passé un peu cette collaboration avec quelqu'un encore dans la thèse et avec tout ce qu'il faut faire. Toi, à côté, tu avais quand même des choses à faire. Est-ce que vous vous êtes vraiment… est-ce que le fait d'être associé, ça vous a vraiment aidé à répartir les tâches, etc. Et comment tu l'as vécu, toi, cette association?
Alors, du coup, je refais une petite histoire parce qu'il y a des histoires derrière tout. Globalement, donc c'est lui qui est venu me chercher effectivement, donc Antoine Pasquier, donc Papas sur Twitch pour ceux qui y sont. Et du coup, on s'est pas trop renseigné correctement au départ et on a commencé par postuler à eLab. Et voilà. Nous, on s'est dit, on a une idée, postulons à e-lab. Je veux dire, pourquoi attendre d'abord e-PhD? Donc,
Ouais, non,
on a
c'est
fait un
après
dossier.
e-lab.
Ouais, on a fait un dossier de malade parce que pour e-lab, il faut quand même envoyer un petit peu sur le dossier. Et en fait, c'est là où on a beaucoup travaillé ensemble. On finissait à 2 h du matin. C'était vraiment intense, intense, parce qu'on a décidé de s'y mettre en janvier et la deadline, c'est début février pour e-lab. Donc, du coup, ça a été très sportif, mais on l'a fait et on a envoyé le dossier. Donc, bien sûr, nous ne l'avons pas eu, hein, pas de suspense. Mais par contre, quand lui, après, il a dû se concentrer sur sa thèse, en fait, moi, j'ai pu simplement réutiliser tout ce qu'on avait fait dans e-lab pour construire tous les autres dossiers. Après, bon, mon ressenti personnel, c'est que je suis un petit peu plus perfectionniste sur la qualité de l'écriture. Donc, ça me convenait parfaitement d'écrire, moi, les dossiers. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Et après, par contre, on a une très forte complémentarité. Et c'est ça, je pense, c'est un peu ce qu'Alexandre disait. Il a un binôme qui est complémentaire. Et c'est exactement ce qu'il faut trouver. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui est fort là où vous ne l'êtes pas. Pour pouvoir justement compléter ce dossier qui demande à la fois des compétences techniques et des compétences dans le domaine du business, le marché. Il y a énormément de notions qui demandent des compétences dans ces domaines-là. Donc ça va, voilà, pour répondre à ta question.
Ok. Habib, toi, ça s'est passé comment?
C'est un peu différent d'Alexandre et Lucie. Donc moi, j'ai déposé le concours IPJ un an après la fin de ma thèse. Et en fait, j'étais en postdoc à ce moment-là, mais j'étais en postdoc avec une autre startup. Donc pour la petite histoire, à la fin de ma thèse, j'ai rencontré des gens qui ont monté une startup à partir d'une première techno que je développais pendant ma thèse. Donc, c'était pas de l'impression 3D, c'était des ciments phosphocalciques injectables via une seringue. Et donc, moi, j'ai eu l'opportunité directement après ma thèse de travailler chez eux. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ma thèse, moi, j'ai eu des encadrants et directeurs de thèse qui s'y connaissaient un peu dans le monde des startups. Et on avait quelques échanges parce que moi, contrairement à Lucie, je voulais pas faire une carrière académique. Et ça laissait des portes ouvertes. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, je vois comment ça se passe dans une startup. Ça me plaît, je pourrais faire la même chose côté impression 3D. Et donc, pendant ce postdoc, j'ai eu la chance de participer au Booster Innovation Montpellier organisé par l'Université de Montpellier, où j'ai gagné un concours de pitch qui m'a ouvert des portes. Et en fait, à ce moment-là, je venais d'obtenir un financement pré-Matsat et tout juste de rentrer à l'incubateur de l'Université de Montpellier qui est réservé aux étudiants et jeunes diplômés. Et en fait, du coup, le concours IPIJ venait vraiment se caler à ce moment-là. Donc, j'ai des chargés d'affaires de l'Université de Montpellier, mais aussi de la SAT, qui m'ont dit, t'as le concours IPIJ, ça pourrait être top pour toi. Et du coup, ben voilà, ça, c'est à ce moment-là que j'ai postulé au tout début de mon aventure entrepreneuriale, en fait.
Alors, moi, j'ai juste une question. Tu as parlé de prémat. Est-ce que tu peux
Oui.
définir ce que c'est et puis expliquer un petit peu pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément très habitués à ce terme?
Ok, donc prémat, c'est prématuration. Donc j'ai obtenu un financement prématuration de la SAT AXLR chez nous à Montpellier, qui était un petit financement pour démontrer une preuve de concept sur ce qu'on développait au laboratoire. Et donc c'était vraiment un petit financement pour montrer que ce qu'on développait au laboratoire avait un potentiel et que ça pouvait fonctionner. En général, les projets de prématuration, c'est entre 12 et 18 mois maximum pour vraiment démontrer la preuve de concept et monter, on va dire, d'un TRL 0,1 à un TRL 2,3.
TRL,
Voilà, les TRL, c'est une échelle qui est utilisée pour quantifier le stade d'avancement d'un projet, donc de l'idée vraiment au produit mis sur le marché. Il y a une échelle croissante qui va, ben voilà, on a une idée, on fait une preuve de concept, on obtient un prototype et ainsi de suite jusqu'au marché.
OK.
Et moi, je voudrais juste ajouter ce que vient de parler Habib, c'est super important. En fait, le fait de travailler sur une preuve de concept et de bénéficier d'un financement d'une SAT, donc une SAT, c'est une société d'accélération transfert technologique. Souvent, il y a des SAT qui travaillent avec des universités de plus en plus. Et en fait, c'est comme si vous effectuez un post-doc parce qu'en fait, vous allez avoir une rémunération pendant, comme l'a dit Habib, de 12 à 18 mois. Ça dépend des SAT. Et en fait, bah, du coup, pendant ce temps-là, vous continuez sur votre projet de thèse ou en tout cas sur votre projet de start-up et ça peut être super intéressant pour avoir plus de temps de faire vos manips, de faire votre preuve de concept qui est indispensable pour lancer la start-up. Moi, je trouve, en tout cas, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps et je trouve que c'est une poursuite de carrière hyper intéressante dont on ne parle pas assez, quoi.
Voilà, c'était juste pour compléter un peu ce que tu dis, en fait, il n'y a pas que les SAT. C'est ça aussi qu'il faut parfois regarder, c'est que nous, par exemple, on a obtenu des financements de l'université Côte d'Azur directement et non de la SAT, parce que l'institut où je travaille ne dépend pas de la SAT de l'université, et également de la région. On a aussi obtenu des financements de la région Sud qui vise justement à permettre en fait à des doctorants qui ont des idées d'avoir accès à un laboratoire pour faire leur preuve de concept. Donc, pour ces questions-là, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher des financements parce qu'il y en a, si vous avez des idées qui tiennent la route, ça peut carrément fonctionner.
Je confirme ce que tu dis, Lucie, parce que moi, la SAT, c'était vraiment un tout petit financement d'amorçage prématuration qui a été complété à la fois par l'Université de Montpellier et par la région également. Donc, c'est vraiment, j'ai eu trois financements pour de la prématuration, vraiment pour compléter à la fois tout ce qu'on a besoin, un salaire, des consommables, un équipement et ainsi de suite.
Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un peu de pub. Il y a le podcast IPHG. Je viens tout juste de publier un épisode aujourd'hui qui s'appelle « Comment se payer ?». Et en gros, justement, ça parle de tous ces financements qui passent entre le labo. J'ai une thèse, je suis en train de bosser. J'ai une techno, j'ai envie de la développer. Comment je fais ? Et entre, en gros, ce moment-là et le moment où vous pouvez vous payer avec votre boîte. Donc, il donne plein de conseils, mais n'hésitez pas à ordonner ce soir, mais je vais chercher et mettre le lien là dans le live.
Donc, et pour rebondir sur ce que disait Habib, du coup, moi, j'ai fait ça, en fait. Je suis avec PSL Valorisation. Ce n'est pas vraiment une SAT, c'est une STT. Et du coup, on a obtenu un financement pré-mat en parallèle du concours IPHD, donc en juin 2021. Et donc, ça me permet, avec mon associé, de nous payer en tant que postdoc, en fait, sur l'année 2022. Et donc, c'est un bon moyen de continuer à se rémunérer et de pouvoir en même temps développer le projet, ce qui est plutôt cool.
Moi, j'ai une question et je trouve que c'est super important d'en parler et qu'il faudrait plus en parler. Pourquoi l'entrepreneuriat, finalement, c'est vraiment quelque chose qui vous botte ? Et est-ce que vous trouvez, vous, personnellement, que justement, il y a un manque de communication au sujet de cette carrière, de cette possibilité de carrière ? Et voilà, comment vous, maintenant que vous êtes dedans, comment vous voyez ça ? Lucie, si tu veux commencer.
Ouais, c'est bon. Je vais essayer de laisser de la place pour les autres après, comme je parle beaucoup. Bon, déjà, entreprendre, je trouve, c'est effectivement, il y a un manque de visibilité. Je vais commencer par cette question-là. Parce que, bon, c'est mon ressenti personnel, mais c'est vrai que généralement, on a l'impression d'avoir des compétences quand on fait une thèse que pour faire de la recherche académique. On a très peu de formation sur tout le reste en fait qu'on est capable de faire en fait, sauf que quand on fait une thèse, par définition, on développe énormément de capacités dans plein de domaines différents, dont celui d'être capable d'apprendre en permanence sur des nouveaux sujets. Nous, on l'a clairement vu, on est reparti de zéro sur l'entrepreneuriat, on a suivi une formation et maintenant je parle le même langage qu'eux et je comprends, bon, pas 100%, on va dire 80% de ce qui se dit. Donc, il faut vraiment comprendre ça. On est des monstres, il faut pas se sous-estimer. On est capable de tous faire ces choses-là. Donc ça, c'est pour cette question-là. Après, moi, pourquoi j'entreprends ? Parce que j'ai vraiment envie de faire bouger les choses à ma vitesse. Parce que bon, travailler dans des instituts, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps. Et en fait, pour moi, il y a un chaînon manquant entre l'application et la recherche académique. J'ai cette impression, en fait, que ce que je peux trouver en laboratoire ou dans mes essais ne se retrouve pas dans la vraie vie. Et le problème, c'est que je suis persuadée que ça peut avoir un impact, mais aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Et donc, j'ai envie d'avoir cet impact, en fait. J'ai envie de me lever le matin en me disant « Aujourd'hui, je vais trouver quelque chose qui va peut-être aider des gens, qui va peut-être faire avancer les choses. » C'est un premier aspect. Après, bon, moi, j'ai un petit problème avec l'autorité. Jusqu'à présent, c'est parfait parce que tous mes chefs ils m'ont laissé full autonomie, il y avait zéro problème, mais ça sera pas le cas toute ma vie, j'en suis consciente, et je sais que je le vis vraiment très mal d'avoir quelqu'un au-dessus qui peut me donner des ordres, c'est problématique. Donc du coup, bah, je préfère être le chef, comme ça c'est plus simple. Et voilà, donc globalement c'est pour ça, c'est le côté vraiment aventure challenge, parce que c'est un truc de fou comme on peut apprendre, aucun jour se ressemble. On fait avancer les choses pour soi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Pas de chef au-dessus, mais voilà, cette capacité d'aller chercher des infos partout pour être le meilleur chef aussi. Et cet impact que j'espère que j'aurai un jour sur notre société. Voilà.
Pour toi, Alexandre ?
Du coup, je rejoins Lucie sur ce qu'elle disait vis-à-vis du gap entre l'académique et l'industrie privée. C'est vrai qu'il y a une différence énorme, et le fait de pouvoir créer quelque chose en laboratoire pendant sa thèse, de le valoriser ensuite et venir en fait l'introduire sur un marché, le valoriser, c'est quand même un grand kiff, on va pas se le cacher, pour moi je trouve ça super cool. Et il y a aussi vraiment la notion du coup de faire bouger les lignes, comme elle a dit, ça c'est important. Et après, pour moi, on va pas se le cacher, ça a été aussi une opportunité, parce que il y a aussi cette envie d'entreprendre, mais il faut aussi avoir l'opportunité. Et je pense qu'elle s'est présentée au bon moment. Pour moi, je ne suis pas sûr que si elle se serait présentée, je ne sais pas, un ou deux années en arrière, je ne suis pas sûr que j'aurais su la saisir. Et puis, et aussi, comme l'a dit Lucie, c'est pareil, le fait de s'enrichir de tout plein de trucs, de tout plein de thématiques, avec le parcours IPG, en fait, on apprend plein de trucs. Et ça, c'est assez ouf de jamais faire la même chose chaque jour. De tout le temps changer de thématique. Enfin, pour moi, ça me stimule énormément. Et voilà, quoi, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui sont vraiment positifs.
Ouais, le parcours, le programme à PhD, on va en parler plus en détail après, justement. Parfait, tu nous...
Je ne vais pas spoiler, alors.
Ah non, mais tu l'as introduit, c'est parfait. Et Habib, pour toi, c'est... Entreprendre, c'est venu d'où? Ouais, Mathilde, tu as vu, je suis ta question.
En fait, moi, entreprendre, déjà, pendant ma thèse, il n'y avait pas tant de programmes que ça, en fait, qui montraient ce chemin-là. Je ne sais pas pour les autres écoles ou collèges doctorales en France, mais nous, on a ce qu'on appelle les doctoriales, que j'ai fait pendant ma première année de thèse, qui est une semaine de sensibilisation un peu en entrepreneuriat. Moi, ça m'a plutôt plu, et en fait, j'ai discuté pendant ma thèse beaucoup avec mes encadrants directeurs de thèse qui avaient l'habitude de monter des startups, qui avaient déjà monté des startups, et c'était quelque chose qui pouvait vraiment me plaire, c'est-à-dire de valoriser ma propre innovation, en fait, ce que je développais moi, j'avais l'impression que si j'entreprenais pas moi et si je le faisais pas sortir du labo, personne n'allait le faire à ma place. Et moi, je trouvais ça dommage que le potentiel de ce que je développais ne voit jamais le jour, en fait, alors que c'est des innovations qui ont un vrai impact sociétal. Donc moi, je travaille dans la santé, et de me dire que ce que je fais, ben, potentiellement, ça ne servira à rien, ou alors ça servira, je ne sais pas, dans 30 ans, quand quelqu'un aura vu ça via le public, ou j'en sais rien. Pour moi, ça, c'était hors des questions. Et le deuxième point, c'était que je n'ai pas de problème avec l'autorité, mais j'aime bien avoir les cartes en main dans ma propre vie. C'est-à-dire que j'aime bien avoir le lead sur ce que je fais. Et pour moi, ce moyen, c'était vraiment l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je décide moi-même de ma carrière. Les opportunités, c'est moi qui me les crée, et ça n'a pas de prix, en fait. De se dire qu'on peut avoir le contrôle de sa carrière et de ce qu'on a envie de faire, ça l'entrepreneuriat, c'est ouf pour ça.
Ok, on va passer à quelques questions. Là, vous avez posé quelques questions dans le chat. Alors, comment vous avez inclus votre binôme dans le dossier, étant donné que le dossier est pour une seule personne, il me semble non.
Si tu veux, Lucie, je peux commencer.
Vas-y.
Je sais que pour nous, c'était pas hyper évident. Et du coup, on a fait un choix, parce que du coup, vu que moi, j'avais commencé à travailler sur la techno et que mon associé, il travaillait sur un autre projet, on s'est dit qu'au départ, ça allait être moi qui allais le présenter. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut aussi insérer, on peut le glisser, que du coup, on n'est pas tout seul sur le projet. Ce qui, en vrai, c'est un énorme point, c'est un point fort, le fait d'avoir quelqu'un, c'est hyper important. Et on peut mettre le CV de la personne qui travaille avec nous et le mentionner vraiment dans le dossier. Je pense que ça peut être mentionné clairement. Et c'est important de le mentionner.
Ouais, du coup, je suis d'accord. En fait, dans le dossier, de toute façon, vous devez présenter l'équipe à un moment donné. Et donc, vous devez préciser forcément quels sont les cofondateurs potentiels et vous devez mettre les CV. Donc, en fait, l'équipe en soi, elle sera présente en entier. Après, nous, par exemple, avec Antoine, ça s'est fait naturellement parce que, en fait, cette année, c'est moi qui ai candidaté à tous les concours à chaque fois en tant que porteuse de projet parce que lui, il est en train de finir sa thèse. Et moi, de toute façon, là, depuis octobre de l'année dernière, je suis plus éligible à rien parce que ça fait plus de 3 ans de thèse. Donc, on s'est dit qu'au départ, on allait utiliser ma thèse, on va dire, comme garant pour tous les concours et qu'ensuite, ça serait la sienne. Mais en fait, bon, en soi, ça change pas grand-chose d'un point de vue théorique parce qu'on reste des co-associés, il n'y a pas de problème avec ça et c'est bien marqué dans le dossier. En revanche, c'est vrai que c'est une critique qu'on a pu faire en fait, parce qu'à un moment donné, on peut faire des retours par rapport au projet, au programme IPHD. Et par exemple, nous, c'est une critique qu'on a faite. Après, ils nous ont répondu que, parce que là, on fait pas mal de cours ensemble, tout ça, et si tout le monde vient avec ses cofondateurs, voilà, on serait beaucoup trop. Et certains, ils sont 5 en fait. Ouais, et puis après, enfin, moi, je sais qu'on partage toutes les informations. À chaque fois qu'il y a des réflexions, on a tous les cours qui sont en replay. Et donc, par exemple, j'ai donné mes codes à Antoine pour qu'il puisse tous les regarder aussi, pour qu'on puisse avoir la même base, en fait. Parce que par contre, c'est vraiment très intéressant. Et donc, voilà, il y a possibilité de partager. Après, je sais que des fois, si Antoine est avec moi quand il y a des cours ou quoi, je le fais intervenir discrètement. Mais bon, voilà. Donc oui, il faut prendre une décision, mais ça va aller.
Et Habib, tu veux ajouter quelque chose?
Moi, j'avais pas de minimum, donc j'étais seul porteur de projet. Mes cofondateurs, c'est des chercheurs, donc j'avais pas de problème de ce côté-là. Eux, ils ont leur carrière de chercheur et ils m'accompagnent sur le projet, mais j'étais seul porteur de projet, donc j'avais pas ce problème-là à résoudre.
Okay. Ok. Alors, on a une question sur YouTube. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous aimez pas l'autorité, est-ce que vous êtes plutôt CEO de votre startup ou CSO avec le côté seulement scientifique? Donc, Chief Scientist Officer, CSO, c'est ça?
Oui. Après, c'est ouais. CTO aussi qu'on peut-être voilà. Plus. Quoi, mais...
Qu'est-ce que vous faites? Quel est le rôle que vous avez pris du coup? Enfin, voilà. L'idée, c'est de répondre à la question, mais est-ce que vous êtes CEO? Comment vous avez choisi le rôle?
En fait, je pense qu'on peut être CEO, CTO, CSO de sa propre boîte. L'autorité, il n'y a pas vraiment d'autorité. Si on est entrepreneur, on peut prendre n'importe quelle position dans la structure. C'est notre structure, c'est notre boîte. Donc, c'est nous qui avons entrepris de sortir une innovation et d'en faire une boîte, d'en faire un produit. Donc, moi, je pense déjà qu'on peut prendre n'importe quelle position, CEO, CTO, CSO. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. D'autres préfèrent garder le contrôle sur la partie scientifique et du coup, va garder ce poste plus scientifique. D'autres, dont je fais partie, veulent changer un peu parce que je pense que la partie scientifique, avec un background, un doctorat sur la science qu'on développe, moi, ça me pose pas de problème de travailler avec un CSO ou un CTO, mais j'aime ce côté business, j'aime ce côté vraiment chef d'entreprise. Donc, moi, j'ai pris le parti d'être le futur CEO de mon entreprise. Mais franchement, c'est vraiment un choix personnel et ça gêne pas que vous preniez une position CEO, CSO, CTO ouais. Au niveau de l'autorité, quoi.
En fait, au niveau de l'autorité, c'est plus est-ce qu'on a envie de faire plutôt côté science ou côté business?
Exactement.
Et si on se sent de faire côté business. Alexandre et Lucie, vous, c'est quoi vos positions là-dessus?
Moi, du coup, ouais, je suis vachement d'accord avec ce que disait Habib. Ça ouais. Dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire, en fait. Parce que, ouais. Pour le coup, moi, c'est vrai que la science, à la fin de la thèse, même si j'adore la science, mais à un moment, j'avais envie de faire autre chose, quoi. J'avais envie de faire autre chose. Et l'aspect business du projet, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, vraiment, et d'ailleurs, c'est grâce à IPHD aussi qu'on peut se développer en ça. Parce que c'est vrai qu'au départ, on n'a pas forcément les compétences, même si on a envie de le faire.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup, partir sur cet aspect-là, cet aspect business, moi, c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais après, il faut aussi voir avec l'associé. Typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit jeu où en gros, on a mis ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on n'avait pas envie de faire, ce qu'on voulait vraiment faire pour voir si déjà ça matchait un peu. Ce qui était cool, c'est que ça matchait complètement. Et donc, grâce à ça, on frustre personne aussi parce que quand on a des associés, c'est important de vraiment que tout le monde et son mot à dire et que chacun peut s'exprimer pleinement. Ça sert à rien de partir sur des choses dès le départ où les gens ne vont pas être d'accord, il y a des non-dits, des choses comme ça. Et donc, se mettre d'accord déjà sur ce qu'on a envie de faire avec ses associés, c'est important. Et du coup, pour savoir si on a envie d'être CEO ou CSO, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire, je pense. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, il faudra prendre des décisions.
Oui, du coup, moi, complètement d'accord avec vous. Sauf que moi, je serais CTO parce que moi, je veux faire de la science. Moi, c'est le côté recherche académique qui a du mal à partir, hein, probablement. Mais non, et après, par contre, je te rejoins complètement. Avec Antoine, on a dû poser des bases, c'est-à-dire définir exactement qui a envie de faire quoi pour que personne se marche sur les pieds. Et du coup, nous, typiquement, on est CEO, mais on est, enfin, pas CEO, mais CEO et CTO, et surtout à 50-50. On souhaite avoir le même pourcentage de parts dans l'entreprise, quelle que soit notre position. Donc, du coup, toutes les décisions, globalement, seront prises à deux, mais juste tout ce qui est stratégie et business lui sera imputé, et tout ce qui est donc R&D et technique, ça sera de mon côté. Mais du coup, c'est pas une question d'autorité. À partir du moment où vous avez des parts majoritaires ou égales dans l'entreprise, c'est vous le boss. Donc voilà.
Du coup, c'est vrai que depuis le début, on parle du concours IPAG, mais ça se trouve, certaines personnes dans le chat ne savent pas en quoi ça consiste. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait avec ce concours? Qu'est-ce que ça vous a appris? Quel genre de personnes vous avez rencontrées et en quoi ça vous sert aujourd'hui dans votre business? Bon, Alexandre, vas-y.
Donc, faut savoir que le parcours, il est organisé en plusieurs parties. Et donc, toutes les semaines, sur la première partie, on avait des formations qui ont été faites par tous les intervenants que vous pouvez voir déjà donc, en dessous sur l'écran. Et donc, en fait, on a appris pas mal de choses à la fois sur les recrutements, la communication, le marketing, les financements, se financer, enfin gérer la finance d'une boîte, enfin tout plein de trucs, stratégie pays. Donc ça, c'est une grosse partie. Après, on a beaucoup de...
Propriété
intellectuelle. Et donc ça, c'est une grosse partie. On a aussi des masterclass, du coup, via Deep Tech Founders. Donc c'est des entrepreneurs qui viennent parler de leur projet. Et donc, on leur pose des questions, on interagit avec eux. Et je pense que c'est là où on apprend beaucoup de choses. Et il y a les temps en présentiel, qui sont peut-être les temps les mieux. Et là, on apprend le plus. Parce que les temps en présentiel, c'est le moment où on est vraiment avec tous les lauréats. Et donc, c'est là où c'est hyper enrichissant parce qu'on peut discuter avec n'importe qui selon le stade dans lequel ils se trouvent. Et moi, pour le coup, vu que je suis dans un stade quand même très peu mature, vu que je viens de finir ma thèse et je suis au début du projet, le fait d'avoir des gens qui sont déjà bien plus avancés que moi, je trouve que j'apprends beaucoup plus vite que si j'étais seul derrière mon bureau ou essayer de faire mes recherches, quoi. Et donc, ce programme, les temps en présentiel, ça m'apporte... c'est un truc de fou comment ça m'apporte beaucoup de choses, quoi.
Ok, Lucie, si tu veux continuer.
Mais pour le programme, globalement, on a l'idée, quoi. Au départ, c'est un Inside the Lab, donc pour voir un peu déjà au sein de l'entreprise, ces questions de CEO, CTO, qu'est-ce qu'on a envie d'être, quel entrepreneur on a envie d'être. C'est des questions qu'on nous pose et qui nous permet de réfléchir sur ces points-là. Là, du coup, on va partir sur la phase outside the lab. Donc là, on va s'intéresser à nos clients. On va s'intéresser à notre business model. Donc là, ça va devenir plus corsé. Mais bon, ça reste vraiment à chaque fois, voilà, comme Alexandre a dit, on a des phases comme ça en cours avec des petits groupes. Et donc, du coup, c'est super intéressant parce que on discute beaucoup. On se fait vachement progresser les uns les autres. Après, il y a des sessions comme ça où on va avoir des témoignages et là, on peut poser des questions. Et en plus, dans un groupe, même si des fois, moi, par exemple, étonnamment, j'ose pas poser de questions, mais il y en a plein dans le groupe qui posent 1000 questions. Du coup, c'est trop bien parce que comme ça, on a des réponses sans même forcer. Mais voilà, et après, par contre, c'est vrai que les phases en présentiel, moi, c'est ce qui me plaît le plus parce que c'est le social. On est tous ensemble, on raconte n'importe quoi. Enfin, en dehors, bien sûr, des moments d'apprentissage. Mais ça nous permet, en fait, de bien se connaître. Et puis, en fait, ça veut juste dire déjà qu'on est 47 dans le même bateau, en fait. Donc du coup, nous récemment justement on a subi notre premier petit pic dans le moral parce que c'est pas toujours facile mais voilà, il y en a plein d'autres qui l'ont vécu et qui sont remontés la pente et donc nous on fait pareil et voilà. Puis on a surtout un groupe en plus sur lequel on peut poser toutes les questions, il y en a toujours au moins 5 qui ont la réponse. Donc en fait, ça nous fait gagner un temps fou, quoi, parce que c'est un monde particulier et donc il faut des personnes qui sont dans ce monde-là pour y répondre. Donc voilà.
Habib. Vas-y, Habib.
Yes. Ouais, bah du coup, je rejoins un peu sur ce qui a été dit par Alexandre et Lucie sur la partie vraiment accompagnement où on a des temps forts, des temps faibles, présentiel, distanciel, où là, vraiment, on va prendre plein de trucs sur comment monter sa startup, en fait. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est vraiment cette partie communauté, c'est-à-dire où là, on est une grosse promo, une quarantaine. Et en fait, le fait de trouver des personnes dans la même situation que soi, c'est primordial pour avancer dans son propre projet. Parce que moi, si je prends mon exemple personnel sur Montpellier, on n'est pas 55 000 doctorants ou jeunes docteurs à monter sa boîte dans la deep tech. Donc, des fois, on est accompagné par des structures ou dans des incubateurs assez généraux, mais on ne trouve pas d'alter ego sur les mêmes problématiques qu'on peut avoir. Et en fait, de trouver vraiment une communauté de personnes qui sont exactement en même temps dans la même situation que vous, ça permet vachement de débloquer beaucoup, beaucoup de situations, notamment sur ce qu'il y a après le IPIJ, le iLab que Lucie a mentionné, de se donner plein de petits tips sur comment monter le dossier, etc., etc. Et ça, c'est primordial. En fait, cet aspect communauté-là, c'est ce qui rend vraiment encore mieux cet accompagnement au travers du IPIJ.
Puis une ouais, grosse bienveillance quand même, quoi. Pardon, vas-y.
Non, t'inquiète. Bah, justement, je voulais justement rebondir en disant que j'ai une petite expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, vraiment minime. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater à partir d'aujourd'hui, c'est que, en fait, souvent, les entrepreneurs nous disent toujours la même chose, c'est que le retour d'expérience, c'est une richesse tellement énorme. Donc, Lucie, c'est ce que tu disais, c'est que tu gagnes du temps. Et en fait, quand tu entreprends, gagner du temps, c'est quand même important. Et surtout, ne pas faire l'erreur que le voisin a fait, c'est très important. Et je pense qu'en ça, le concours IPIJ, c'est super important et c'est un super événement pour ça. Et je rebondis sur le fait que, justement, Elodie, à la sortie des super podcasts où elle parle avec des jeunes entrepreneurs justement sur leur parcours. Et ça, je pense que c'est une richesse. Et parfois, on s'en rend pas compte. Il y a des super podcasts qui existent et voilà, il y a ce type de concours. Et en fait, il faut profiter de ça parce que vraiment, le retour d'expérience pour l'entrepreneuriat et le doctorat et d'autres sujets, c'est vraiment… Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est super important, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça.
Totalement d'accord. Et, ouais. Et justement, là, en fait, moi, je voulais rebondir sur iLab, Mathilde, si ça te va, parce qu'on l'a entendu plusieurs fois. Et il me semble que vous avez eu les… Alors, je ne sais pas si vous avez postulé pour iLab, là, cette année. Qui a postulé? Non.
Moi, ouais.
Habib,
moi,
OK.
Moi, je n'ai pas postulé, moi.
Mais c'est la prochaine étape, en fait, il me semble.
Ouais. C'est ça, c'est l'étape d'après.
Yes.
Et justement, on a Eva sur YouTube qui pose une question par rapport à iLab. Donc, si ça te va, Mathilde, on va la mettre. En quoi, vu qu'on parlait de l'accompagnement IPIJ, on parlait d'iLab, en quoi est-ce que l'accompagnement vous a permis de mieux appréhender iLab et peut-être de l'avoir justement cette année ou l'année prochaine quand vous postulerez
Et peut-être, Habib, tu peux juste expliquer en quelques mots avant de répondre à la question, qu'est-ce que c'est iLab concrètement?
En fait, le concours iLab, c'est le volet après IPIJ qui est ouvert aux porteurs de projets pour des projets de création de start-up, donc pas encore créé, ou jusqu'à 2 ans après la création de la start-up. Donc c'est là, on dépasse le cadre de la thèse ou juste jeune docteur. Et là, on n'est pas sur un accompagnement, mais on est sur un financement qui peut aller jusqu'à 600 000 euros pour les grands prix. Donc là, on est vraiment sur un financement d'un programme de R&D sur 3 ans. Donc là, c'est vraiment un gros, gros, gros booster si on prévoit de créer sa startup dans l'année ou si on vient de créer sa startup. Par contre, le dossier est beaucoup plus lourd que IPIJ. Et en fait, si on n'est pas structuré vraiment comme il faut, c'est quasiment impossible de faire l'iLab. Et donc, en quoi IPIJ, ça permet de mieux appréhender l'iLab, c'est tout ce qu'on fait dans IPIJ, c'est ça, c'est vraiment structurer sa startup sur tous les volets. Donc la partie financière, la partie propriété intellectuelle, la partie marché, partie juridique, en fait, tout ça, en fait, on le voit dans IPIJ et on le met en place justement pour créer sa startup. C'est tout ce qu'on nous demande dans iLab. Donc et au-delà de ça, vu qu'on est plusieurs à passer le concours cette année, donc comme je l'ai dit, on peut s'entraider sur certains points qui peuvent poser souci pour certains, on peut aller demander à ceux qui le déposent, bah, est-ce que t'as fait ça, comment t'as fait ça, etc. Donc moi, EPIJ, c'est ce que ça m'a apporté pour ILAB, vraiment structurer le projet au maximum pour répondre au concours ILAB.
Après, je pense que c'est un peu aussi pour ceux qui vont évaluer les projets ILAB, de savoir que ces personnes ont eu EPIJ, en tout cas, ça leur permet d'être sûr qu'ils ont eu une certaine formation, en fait. Donc, je pense que ça aide aussi de passer dans ce processus-là, c'est-à-dire d'abord EPIJ, comme ça, on a les bases et on comprend bien comment tout fonctionne. Et comme ça, quand on va pour ILAB, effectivement, on a toutes les infos dont on a besoin grâce à EPIJ, mais ça permet aussi d'avoir un retour et que ILAB comprenne bien, les évaluateurs, que voilà, on a une base, on a compris ce qu'il fallait faire, on a compris que si on se lance là-dedans, c'est qu'on est capable de le faire. Donc, je pense que il y a quand même cette notion qui est intéressante.
Et c'est vrai qu'avec avec IPHD, en fait, on rentre entre guillemets dans le radar de BPI France, qui justement propose énormément de différents financements, comme les bourses French Tech Emergence et iLab. Et en fait, je pense qu'ils peuvent avoir un certain suivi au fil des dossiers, voir comment aussi le projet avance. Et ouais, au-delà de ça, comme le disait Lucie et Habib, il y a tout l'aspect formation qui nous cadre, en fait, pour arriver à ça, quoi, derrière.
Et en plus, les intervenants, ils peuvent même corriger nos dossiers. Ils nous ont proposé de corriger nos dossiers. Là, il y a eu des oraux. Ils ont proposé de faire des réunions pour qu'on visionne les oraux et qu'on les aide. Enfin, il y a vraiment une entraide entre tous les lauréats. Donc,
J'ai juste une dernière question pour toi, Alexandre, justement. Parce que ça m'intéresse personnellement, mais comment ça a été perçu à ta soutenance de thèse? Parce que je suppose que tu en as forcément parlé à ta soutenance de thèse, ou au moins dans ton manuscrit. Parce que oui, sachez qu'en tout cas, si vous faites de l'entrepreneuriat pendant votre thèse, vous pouvez le dire dans le manuscrit, hein, c'est très bienvenu. Comment ça a été reçu pour toi pendant ta soutenance?
Ça a été franchement bien reçu. Enfin, après, je pense que j'avais des jurys qui étaient plutôt ouverts. Plutôt bien ouvert, et du coup, y en a vraiment, ils ont kiffé, quoi. Ils se sont dit, waouh, ça c'est génial et tout, faut le faire, tu nous vends du rêve, allez, vas-y, continue, quoi. Mais après, je peux comprendre que parfois, ça peut être un peu plus délicat, parce que c'est vrai que ce qu'on va, du coup, disons que les recherches qu'on va mener, si on est tourné vers l'entrepreneuriat, on va pas forcément mener les mêmes recherches en faisant de l'académique. Mais après, faut pas aussi oublier que tout ce qu'on a fait pendant une thèse, l'aspect académique peut faire une belle pub, parfois, ou valider l'aspect scientifique de votre techno. Et c'est aussi en ça, par exemple, que ILAB aide pas mal, je pense, c'est que ça confirme l'aspect scientifique de la techno. Mais sinon, ouais, moi, ça a été bien reçu, franchement, ça a été bien reçu. Après, c'était délicat parce que on n'avait pas encore publié les résultats et ils sont pas publiés. Et du coup, faut mettre faut faire des embargos sur la thèse, donc pas qu'elle soit publiée tout de suite et des choses comme ça, quoi. Enfin, et ça fait partie de la stratégie PI au final. Et donc, ouais, et ça, c'est un point important. Pensez-y déjà maintenant, parce que si vous avez envie de déposer des brevets ou pas d'ailleurs, la stratégie, elle se pense maintenant. Et ça permet d'éviter parfois de se traîner des casseroles qu'on traîne depuis la thèse, et c'est mieux de les éviter, quoi.
Ouais, bah, propriété intellectuelle, hein. Ouais, je vous rappelle juste.
Propriété intellectuelle.
Ouais. C'est parfait, parce que je voulais justement venir sur le fait que, encore une fois, personnellement, je trouve qu'on n'est absolument pas formé à la propriété intellectuelle dès la première année du doctorat, sauf dans l'Académie de Bourgogne-Franche-Comté. Franche-Comté, il existe des financements docteurs-entrepreneurs où, en fait, tu fais une thèse avec un financement pour faire de l'entrepreneuriat après. Et donc, dès ta première année, tu as des cours, donc au lieu de valider des formations à l'école doctorale, etc., tu as des cours justement dans des écoles exprès pour t'apprendre la PI, etc., la propriété intellectuelle. Et du coup, dès ta première année, tu es vraiment formé à faire ça. Et moi, ça, c'est un truc que je déplore. Déjà, pourquoi il n'y a que ça là-bas et pourquoi il n'y a pas d'autres dispositifs comme ça ailleurs? Et moi, personnellement, ça fait partie d'un de mes plus grands... c'est un de mes plus grands regrets, parce que j'ai communiqué très tôt dans ma thèse. En première année, j'avais 5 oraux de conférence. Et du coup, très vite, j'ai communiqué autour de tout ce que je fais dans ma thèse. Et je regrette d'un côté, parce que pour une question d'entrepreneuriat, c'est un peu délicat. Après, je regrette pas, parce que je trouve que c'est une expérience incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience, et je trouve qu'on manque de vigilance sur ça.
Après, selon les écoles doctorales, on peut aussi avoir des formations à côté. Enfin, moi, du coup, j'avais en étant à l'ENS avec l'université PSL, je ne sais pas s'il y a peut-être des auditeurs qui sont dans cette université-là. En gros, il y avait un programme qui s'appelait PSL iTeams, et toutes les semaines, en fait, on avait des formations comme ça, un peu sur le modèle qu'on a là, mais en moins costaud quand même. Et en gros, on avait des formations justement sur tout ça, l'API et ces choses-là. Ça m'a permis quand même d'aborder déjà pas mal de choses pour éviter de faire certaines petites bêtises.
On a une question de Romain sur YouTube qui demande quel est le pourcentage de lauréats iPhD sur le nombre de candidatures. Voilà, 45%, on a Amandine Dadoc qui nous répond, 45% cette année de taux de réussite. Donc voilà, c'est bien, c'est cool, ça veut dire déjà qu'il y a quand même de bonnes chances de l'avoir quand on participe. Mais voilà, chaque année, potentiellement, il y aura de plus en plus de candidatures. N'hésitez pas à participer dès que vous voulez, dès que vous pouvez. Et justement, là, j'allais avoir une question plus sur le dossier, etc. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui hésitent encore à candidater, tout simplement, qui disent que peut-être qu'ils n'ont pas le temps, ou pour ceux qui sont en plein dossier, peut-être un petit truc qui vous a aidé, quelque chose? Est-ce que vous avez des petits conseils, quoi?
Ouais, je peux commencer.
Vas-y, Abby.
Je pense que j'ai dû mettre une quinzaine de jours pour le faire. C'est pas un très très gros dossier, donc c'est assez light. C'est un dossier avec un plan de R&D et un peu sur vos motivations. Et je crois qu'il y a une vidéo aussi d'une minute trente pour pitcher votre projet. Et si je dois donner des conseils, c'est entourez-vous. Si vous avez jamais écrit de programme de recherche, donc moi en fait il était déjà rédigé parce que j'ai eu la prématuration SAT, donc j'avais déjà rédigé le programme. Si vous ne l'avez pas fait, parlez-en à votre directeur encadrant de thèse qui vous suit sur le projet pour vous aider à le mettre en place. Et le deuxième conseil, c'est entourez-vous d'une structure de valorisation. Donc, peu importe, c'est NRS Innovation, SAT, Incubateur, les structures dans notre écosystème. Parce qu'il y a quand même une petite partie marché, etc. Sur le dossier. Donc, étant donné qu'on est scientifique de base, on n'a pas trop l'habitude avec ça, surtout quand on démarre. Donc, entourez-vous aussi par une structure de valorisation pour vous aider à monter le dossier.
Je pense qu'Ali, il a quasi tout résumé, je pense. Moi, je l'avais fait, on l'avait fait, du coup, avec mon associé Vincent, on l'avait fait en 2 semaines, 2 semaines avant de finir. Donc, c'est encore le temps. Si vous hésitez, allez-y. En plus, il n'y a vraiment rien à perdre, quoi. Et franchement, ouais, entourez-vous d'une SAT ou de l'écosystème. Parce que eux, ils vont avoir des conseils et ils ont beaucoup plus de recul sur nous à ce moment-là, sur ce qu'on a envie de proposer. Et donc, je pense que ça vraiment peut faire gagner en valeur votre dossier. Puis sinon, même dans la vidéo, faites un pitch, mais essayez pas de vous inventer une personne, vous prenez pas trop la tête, je pense. Faites votre truc comme vous le sentez et pitchez votre projet, ça se passera bien, je pense.
Ouais, du coup, je rejoins les garçons. Peut-être pour vous aider, je sais que moi, par exemple, j'ai fait une demande de statut étudiant-entrepreneur auprès de mon université. Donc ça, normalement, vous pouvez le faire. Et ça vous attribue, en fait, un chargé d'études dans l'incubateur qui est relié à l'université. Donc nous, ça a été notre Graal parce que la personne qui nous a été attribuée était juste géniale, mais comme probablement toutes les autres, mais et du coup il nous a beaucoup aidé et il nous a aidé surtout sur eLab, du coup, puisqu'on s'est servi de ce dossier là pour remplir les PJ, mais à ce moment là en tout cas, surtout qu'on a adoré faire tous des trucs dans le rush, donc à chaque fois c'était si tu peux nous le renvoyer dans 2 jours, ça serait super. Il était là, ok. mais bon, on l'a fait. Par contre, nous, donc je sais pas si c'est votre cas, peut-être c'était nous, on était un peu perdus, mais nous on n'avait pas du tout compris le côté SAT, voilà, parce qu'en fait il faut forcément dépendre d'une SAT ou d'une société de transfert, et nous c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout réfléchi. En fait, on avait notre projet. Après, c'est un peu particulier parce que nous on a eu une idée en dehors du labo et ensuite on a voulu la ramener, et en fait cette idée elle était basée sur nos compétences qu'on avait acquis au labo, mais c'est pas directement nos travaux de recherche qui ont conduit à cette découverte, et c'est pas nos directeurs respectifs de thèse qui nous ont dit viens, on fait une entreprise. Et donc du coup, quand on vient de l'extérieur comme ça et qu'on revient avec une idée, Je pense que c'est un poil plus compliqué peut-être, parce que du coup, il a fallu convaincre déjà mon ancien encadrant de faire le projet avec nous. Donc, il aurait complètement pu dire non, non, mais ça va aller. Donc, on a de la chance qu'il nous ait dit oui. Et ensuite, on s'est dit, OK, mais du coup, on n'a rien à valoriser, parce que pour EPHJ, il faut forcément être suivi par l'INSAT, c'est-à-dire avoir quelque chose à valoriser, que ce soit un savoir-faire secret ou une déclaration d'invention, quelque chose dans ce genre-là. Et nous, on s'est dit, bah, on n'a rien. Donc, comment on fait? Et en fait, on a réfléchi, on a réussi finalement à sortir quelque chose de ma thèse qui n'était pas publié. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas, il y a forcément quelque chose que vous arrivez à valoriser. Donc là, nous, comme je travaille à l'INRA, on s'est rapproché de INRA et Transfert, qui a accepté notre déclaration d'invention de savoir-faire secret. Et donc du coup, on a réussi à obtenir ça, sachant qu'on n'avait aucun financement et que normalement, il faut être financé pendant le concours EPHJ. Donc nous, on n'avait toujours pas les réponses des dossiers pour les financements. Et on a rendu notre dossier 7 jours en retard, parce qu'en fait, on a eu la réponse de INRA et Transfert après la deadline. Donc en fait, nous, on a fait un combo de petits problèmes par-ci par-là, mais ils ont été juste géniaux parce que ils ont compris en fait que bah, ça, tout ne dépend pas de nous, et ils ont accepté notre dossier avec du retard. Donc je vous conseille clairement pas, bien évidemment, de l'envoyer en retard. C'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, voilà, il y a de la tolérance, c'est-à-dire que voilà, il y a des processus qui peuvent être plus ou moins longs. Donc si là vous n'avez pas ce côté propriété intellectuelle, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher quand même de la structure de transfert qui vous est attribuée, à discuter avec les gens à l'université qui sont dans ce domaine-là, parce que vous trouverez forcément quelque chose à faire. Et si votre chef de labo vous suit, voilà. Et après, juste si je peux, parce que il y avait, enfin, la question c'était un peu si on ne le fait pas ou si on le fait en fonction du temps que ça prend, parce que c'est vrai que par exemple, on est dans une troisième année de thèse. Et ensuite, il faut faire toutes les formations EPHJ. Il faut travailler sur le projet en parallèle de la thèse. Et c'est vrai que je pense que ça peut être très compliqué. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait n'étant pas dans la thèse. Et j'ai déjà beaucoup travaillé en tant que post-doctorante. Voilà, c'est la recherche, c'est comme ça. Et c'est déjà très prenant. Et on est deux. Donc après, voilà, si vous êtes seul, que vous êtes en troisième année de thèse, bon, ça va être compliqué. Après, voilà, ça dépend de votre force, de votre volonté, de votre capacité de sommeil et de la durée du sommeil maximale que vous avez besoin. Mais c'est plus compliqué. Donc peut-être présenter cette année, ou commencer en tout cas à y réfléchir cette année, mais attendre, parce que c'est vrai que ça prend du temps. C'est pas anodin. Le but est de créer une entreprise. Donc ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande notre concentration de notre cerveau. Donc voilà.
Mais justement, j'allais vous demander, est-ce que, donc, bon, là, tu as répondu pour la troisième année de thèse, mais est-ce que vous pensez, maintenant de l'avoir fait, que participer à ce concours, c'est pas possible lorsqu'on a une activité annexe? Donc, je ne sais pas, par exemple, si on a commencé un poste après notre thèse, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être compliqué?
Ça peut être
Enfin,
compliqué, mais je pense que on peut s'en sortir. Franchement, le programme est assez flexible, donc on est assez tolérant envers nous-mêmes parce qu'on a tous des emplois du temps ultra chargés. Mais c'est quand même une opportunité qui est formidable quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est compliqué, mais c'est comme tout. Donc une thèse c'est compliqué, l'entreprendre c'est compliqué, mais à la fin, on s'en sort toujours. Donc, si on fait un post-doc à côté, si on a un poste à côté, je pense qu'on peut s'en sortir. De toute façon, il faut de la résilience, il faut une certaine capacité de travail. On se le cache pas, on donne beaucoup de temps. Donc, c'est compliqué, mais c'est largement faisable. Et même, je pense, moi, je l'ai pas fait en troisième année de thèse, mais peut-être que si j'avais l'opportunité de le faire, je l'aurais fait même en troisième année de thèse, parce que Alexandre pourra en témoigner, il l'a fait, mais je pense que quand on est en troisième année de thèse, c'est un très très bon moyen de préparer son avenir. Quand je vois dans mon entourage que beaucoup de gens en troisième année de thèse sont perdus et ne savent pas comment gérer l'après-thèse, ça peut être un vrai moyen même de le faire, de postuler en troisième année de thèse. Et de toute façon, le programme, il commencera que vraiment à la fin de la thèse, même après avoir soutenu. Donc, je pense que c'est
c'est vrai
faisable.
qu'Anil, t'as raison. J'avoue que moi, si je devais le conseiller, enfin, je le conseille fortement. Même si c'est sûr que ça demande du temps et c'est c'est un peu chaud à un moment parce que le programme, il commence fin septembre, je crois. Et pour ceux qui finissent, par exemple, sur l'année, moi, je sais que je devais rendre ma thèse, c'était fin octobre, et je soutenais mi-décembre. Du coup, c'était clairement plein dans le rush. Mais d'un point de vue, je vais pas dire timeline, mais par rapport à l'avancée du projet, c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse, parce que si, le fait d'avoir, entre guillemets, un an de retard, ça aurait été, je pense, un peu plus chaud vis-à-vis du projet. Donc, je pense que c'était important de le faire maintenant. Mais je pense que c'est vraiment possible de concilier les deux. Après, ça dépend aussi du directeur de thèse, clairement, parce qu'il y a du temps qui va être alloué à d'autres choses. Typiquement, les discussions avec les SAT ou les STT pour la PI, rédiger un brevet, travailler avec des avocats pour protéger cette PI. Enfin, il y a plein de trucs à faire que, du coup, c'est du temps où on n'est pas sur notre thèse. Enfin, ça fait partie de notre thèse, mais
ouais, c'est du temps. Pour moi, c'est notre travail de doctorant aussi.
Voilà. Et du coup, ce qui veut dire que, par exemple, pendant les sessions qu'on avait le mercredi après-midi, ou le temps où on doit se préparer, bosser sur notre projet, clairement, ce n'est pas un temps où on va être derrière le microscope ou autre chose comme ça. Donc ça, et c'est un point aussi qui est crucial sur le dossier, c'est faut que le labo il soit chaud, et il faut que aussi la SAT ça soit OK, quoi. Mais c'est surtout que le point clé, c'est que le labo soit chaud, quoi.
De toute façon, je pense qu'on peut pas postuler seul sans l'accompagnement du labo et sans l'accord des directeurs de thèse. Donc c'est un point essentiel.
Non, dire que pour les programmes des SAT, c'est pareil, il faut toujours l'accord des DT, directeurs, etc.
Oui, juste parce que du coup, tu disais c'était possible de faire un contrat à côté, enfin bosser sur autre chose à côté, mais au final, on est obligé d'avoir un financement sur 12 mois pour ce projet-là qu'on défend dans IPJ. Donc, n'importe qui peut avoir une activité à côté, mais ça ne sera jamais pendant les heures, on va dire, de travail au laboratoire. Donc, par exemple, typiquement Antoine, qui stream beaucoup pour son activité annexe, il va le faire le soir, il va le faire, il va devoir quand même faire sa partie pour l'entreprise, mais après, à côté, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, effectivement, c'est sa gestion, quoi.
Bah justement, pour rester un peu dans le monnaie, il y a une petite question dans le chat qui est, c'est une bonne question parce que on se la pose tous et toutes. Avez-vous déboursé de l'argent personnellement, fait des prêts pour financer vos projets? Si oui, environ combien d'euros?
Moi, pour l'instant, j'ai déboursé aucun euro. Mais je pense que je suis encore dans un stade peu mature. Par exemple, je n'ai pas déposé de statut, je n'ai pas créé la start-up encore. On prévoit de le faire plus pour la fin de l'année. Dans tous les cas, là, je pense qu'il faudra en mettre un peu. Mais pour l'instant, à part à ma connaissance, normalement, si vous devez être financé par une SAT, si vous postulez à IPHD, vous êtes accompagné, les labos, ils peuvent aussi mettre de l'argent, participer au matériel et tout ça. Donc normalement, jusqu'au moment où vous créez la structure, il n'y a pas trop à débourser, à part certaines prestations, mais en général, on nous aide, quoi.
Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Alexandre. Avant la création de start-up, on ne débourse pas un euro en soi, parce que pour se payer, pour être accueilli au laboratoire, pour faire avancer ses manips, etc., il faut trouver des financements. Donc, on n'a pas d'argent à sortir. Et l'argent qu'on doit sortir, c'est lorsqu'on dépose des statuts, lorsqu'on crée le capital de la société, où là, forcément, on aura de l'argent à sortir. Mais si je dois vous donner un conseil qu'on m'a donné, par des entrepreneurs aguerris, c'est qu'il faut sortir le moins d'argent possible de votre poche quand vous créez votre boîte. Et il y a des concours qui existent avec des prix perso. Donc, si vous avez la possibilité de participer à ces concours et de gagner ces concours, ça peut vous faire entrer un peu de cash que vous pouvez mettre de côté pour justement financer votre capital et le démarrage de la boîte.
Oui, et les prix de thèse. Ouais.
Oui, il y a pas mal de prix. Après, nous, on a dépensé un peu, mais parce que des fois, on veut acheter des choses pour l'entreprise. Enfin, on a dû acheter des organismes, des choses comme ça. Et le temps qu'on commence le contrat, tout ça, ça nous éperd trop de temps. Donc, on a pris des décisions pour faire avancer le projet. Après, effectivement, on a gagné des petits concours avec des prix. Ça nous a permis de nous rembourser. Après, je pense qu'il y a une petite particularité par rapport à vous, parce que vous êtes suivi par des SAT, donc théoriquement, c'est eux qui payent pour le côté propriété intellectuelle. Or, nous, avec INRA et Transfert, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on doit payer notre partie. Donc, par exemple, là, on a eu un prix, et ce prix, il a permis de payer la recherche d'antériorité par rapport à notre techno. Donc, effectivement, on n'aurait pas sorti l'argent de notre poche. On a attendu d'avoir des prix et c'est pour ça qu'on candidate à des prix, pour espérer les avoir et faire des progrès sur notre projet. Donc après, à voir aussi par rapport à votre labo et à ce que vous voulez faire. Parce que par exemple, nous, c'est un choix de toute façon pas passer par une SAT ou une RAE transfert pour notre propriété intellectuelle. Parce que ça veut aussi dire qu'elle dépend entièrement de nous. Donc on n'a pas besoin de mettre quelqu'un d'autre dans ces projets-là. Donc voilà, c'est un choix personnel, mais ça veut aussi dire que c'est nous qui devons aller chercher l'argent, alors que dans une SAT, c'est eux qui vous avancent, et ensuite vous devez rembourser plus tard, vous me dites si je me trompe, parce que du coup je ne connais pas les SAT. Mais voilà, donc c'est des choix. Après, là, pour l'instant, on s'est remboursé sur tout ce qu'on avait avancé, et on a plus encore, puisqu'effectivement, on va essayer de prendre cet argent-là pour mettre dans les capitaux lors de l'ouverture de l'entreprise. Sachant qu'avec EPHD, cette année, ils ont ouvert la bourse French Tech spécifique pour les candidats EPHD, donc lauréats EPHD. Donc, vous n'avez pas... donc, c'est 30 000 euros de financement et c'est vous qui devez amener 3 000 euros à peu près. Sur ces financements-là, ils ne sont pas attribués directement. Par contre, vous devez créer un dossier et vous avez des chances assez importantes de l'obtenir. Puisque vous êtes déjà lauréat EPHD et donc votre dossier théoriquement est cohérent. Donc c'est pas automatique, mais par contre c'est une aide extrêmement précieuse justement pour créer les statuts de l'entreprise, pour avancer sur le côté propriété intellectuelle, sur l'étude de marché. Moi j'ai vu une question passer, je sais pas si on va la traiter après, mais voilà. Donc, on peut se rembourser si on a avancé et sinon pas besoin d'avancer comme a dit Alexandre.
Sur l'argent perso. Je prends en compte aussi le chômage parce qu'il y a des calculs un peu importants à faire. C'est que finalement, après une thèse, enfin moi dans mon cas, après une thèse, on ne va pas se mentir, le chômage sur une thèse, il n'est pas forcément très élevé. Enfin, c'est compliqué de vivre dessus, surtout en étant à Paris pour ma part. Donc du coup, le fait de pouvoir être rémunéré en tant que postdoc derrière pendant cette année-là, ça permet aussi d'avoir, au moment où on crée la boîte, un chômage qui va être plus important et qui là, entre guillemets, on va devoir débourser de l'argent. Je considère que le chômage qu'on a, c'est comme si on pouvait le débourser aussi. Et du coup, y a des petits calculs sur les montages financiers un peu à faire pour après. Mais le fait aussi d'être payé après la thèse permet aussi d'augmenter en quelque sorte son chômage et le capital que vous allez avoir.
Alors, le chômage, c'est ça en fait. Justement, alors je viens de partager dans le chat le lien pour l'épisode de podcast Comment se payer qu'on vient de faire, où justement les lauréats 2020 expliquaient qu'en fait tu peux transformer, Alexandre, dis-moi si je raconte une bêtise, tu peux transformer 45% de tes droits en fonds pour ta boîte. Donc du coup, s'il vous reste du chômage, ça peut être transformé en capital aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Donc voilà, j'ai mis le lien pour le podcast justement, c'est parfait, on en a parlé. Mais effectivement, Pôle emploi, on peut transformer ça en argent. Habib, tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Non, pas spécialement, mais le fait d'être financé après sa thèse, ça permet aussi de mettre de l'argent de côté et subvenir à ses besoins s'il y a des temps difficiles au moment de la création. Et ça, c'est primordial aussi, donc faut y penser. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la bourse French Tech dédiée à EPHD, c'est quand même un sacré coup de pouce qui vient avec l'accompagnement et tout ce qu'on a pu dire depuis le départ. Et ça, c'est vraiment pas mal.
Après, sur ces questions de chômage, moi, pour le coup, donc, comme j'ai été plus tardive, j'ai pris la décision plus tard de faire cette aventure-là. Moi, j'ai eu un an de chômage pendant laquelle j'ai fini globalement beaucoup de choses que j'avais pas encore terminées, plus travailler sur ce projet-là. Et c'est pas grave, quoi. On s'en sort. Alors, c'est sûr, le chômage était vraiment bas pour le coup. Et pour être honnête, je suis retournée vivre chez mon père parce que sur la Côte d'Azur, en fait, on peut pas vivre avec si peu, malheureusement. Donc effectivement, après, c'est un choix. Certains d'entre nous n'ont pas de salaire et n'ont pas de chômage. Mais voilà, ils sont déterminés et ils trouvent des solutions. C'est pas une situation confortable, ça c'est clair et net. Moi là, je le vois depuis que je suis retournée à l'INRA pour mon postdoc. Je suis très très contente de pouvoir de nouveau avoir un peu d'argent sur mon compte. Mais voilà, enfin c'est une année que je regrette pas. C'est-à-dire bon, c'était pas facile, mais en fait je l'échangerai contre rien au monde parce que c'est pour un meilleur avenir, que ce soit pour moi ou pour les gens que j'espère un jour employer et pour les personnes qui vont acheter notre solution. Donc voilà.
Super. Tu voulais poser une autre question, Elodie, je crois.
Oui, on a la question d'Exilence qui était sur le dossier EPHD. Jusqu'où est-ce que vous avez poussé la partie business, études de marché, interview, etc.
Bah moi, nous, on n'avait pas fait d'études de marché. Alors, je ne sais pas si par études de marché, on entend vraiment demander une étude de marché à un prestataire ou la faire nous-mêmes. Nous, on s'était intéressé au marché, on avait fait notre veille techno, tout ce qui se proposait. On avait essayé de pousser dans ce sens-là. On n'avait pas engagé un prestat pour faire une étude de marché. Et du coup, bah, pareil pour les interviews. Nous, on n'avait pas d'interview. Enfin, on a fait notre truc nous-mêmes à partir des ressources qu'on avait au départ parce qu'on n'avait pas de fonds déjà au-delà de ça. Donc, on a fait notre truc, enfin notre tambouille en regardant sur Internet, en cherchant des sources. Et puis voilà quoi.
Ouais, bah, du coup, pareil, pour postuler au concours EPHJ, je n'avais pas entamé d'études de marché ou quoi que ce soit. C'était vraiment tout début du projet entrepreneurial. Donc, on n'avait encore rien mené. Mais du coup, pareil, pour la partie business, moi, c'est surtout l'aide des deux chargés d'affaires qui m'ont accompagné au montage du dossier, qui m'ont aidé sur cette partie-là, sur ce qu'il fallait mettre, les informations qui étaient nécessaires, etc., etc. Donc après, c'était plus de la recherche littérature plutôt que études de marché vraiment faites soi-même ou par des prestataires que l'on va faire de toute façon tout au long du programme EPHJ pour la partie business model et voir qu'il y a un vrai marché sur ce qu'on fait quoi.
Bon, études de marché pour moi c'est surtout effectivement de la recherche sur internet, c'est-à-dire votre marché, je dis n'importe quoi, c'est les forêts. Voilà, il faut que vous alliez savoir en fait combien, quel est le marché de cette forêt, combien ça rapporte en milliers ou en millions d'euros par an, à qui. Globalement, c'est un peu ça qu'il faut que vous sachiez, en revanche, mais ça, c'est de la recherche internet. Par contre, nous, on avait aussi, pas réalisé des interviews, mais on avait lancé un questionnaire, en fait, comme c'est dans un domaine agricole. Ben, en fait, on s'est pointé sur les groupes Facebook des agriculteurs et des viticulteurs de France. Et on a lancé notre petit questionnaire qu'on avait fait, un petit Google Form. Et en fait, on a eu des réponses ultra intéressantes. On a eu plus de 140 réponses. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant d'engouement. Mais en fait, ça a juste conforté notre idée. Donc, en soi, on a pris une demi-journée pour faire le questionnaire et l'envoyer, et ça nous a complètement conforté dans l'idée de ce qu'on voulait traiter dans notre projet. Et en plus de ça, je pense que ça a pu jouer pas mal en notre faveur dans le dossier, parce que on avait déjà un retour des clients potentiels, donc je pense que c'est pas négligeable. Après, effectivement, pendant tout le concours, et nous, notre chargé d'affaires nous le rabâche en permanence pour faire des interviews. Mais effectivement, ça va être une partie importante. Pour le concours, ce n'est pas nécessaire, mais ça le sera forcément ensuite pour valider votre marché. Sans ça, de toute façon, vous serez bloqué à cette étape-là. Mais pour le concours, non. Il faut que vous ayez une idée, clairement, de votre marché. Et voilà, pas hésiter peut-être à lancer un petit questionnaire. Mais visiblement, c'est pas déterminant, mais voilà.
Je voulais rebondir sur le fait que donc moi j'ai fait un bébé truc en gros, donc j'ai été sélectionnée pour être suivie par la SAT de mon université là pendant un an. Donc c'est un programme qui s'appelle le programme Jeune Chercheur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait pendant ce programme, donc j'avais aussi des petits cours sur le business plan, etc. Et justement j'ai une personne qui me suivait et qui en fait m'aidait à faire cette étude de marché un peu précoce. Mais en tout cas, elle me posait des questions. Elle me disait, bon, pour la prochaine fois, ce serait bien que tu regardes ci, que tu regardes ça sur les imprimantes 3D, etc. Parce que moi aussi, mon sujet, c'est sur l'impression 3D. Et du coup, en fait, si vous êtes suivi assez tôt, comme Lucie le disait tout à l'heure, d'aller voir avec les centres d'entrepreneuriat de vos universités, parce que aujourd'hui, il y en a partout. Normalement, il y en a dans pratiquement toutes les facs, en tout cas dans tous les regroupements de facs. Donc voilà, de vous faire suivre par le Centre d'entrepreneuriat de Lyon, d'obtenir le statut étudiant-entrepreneur que tout le monde peut avoir et qui vous permet d'être suivi encore plus. Voilà, toutes ces choses-là, ça vous permet de rencontrer des personnes qui sont super contentes de toujours être là pour vous aider et vous pouvez petit à petit faire votre petite étude de marché sans que ce soit un truc de ouf, mais en tout cas, vous mettre déjà dans le bain.
On arrive à la fin, là, Mathilde. Je te laisse clôturer, peut-être.
Bah déjà, merci à tous les trois. C'était vraiment super intéressant, cette discussion. Et est-ce que vous auriez des conseils assez globaux à donner à toutes les personnes qui soit se disent pourquoi pas l'entrepreneuriat ou qui soit vraiment sont déterminées mais qui peuvent avoir peur par tout ce que ça implique, tout ce que vous avez expliqué ce soir?
Franchement, bah, j'aurais envie de dire lancez-vous. Lancez-vous parce que... On a l'impression que c'est un peu un saut dans le vide, mais finalement, on est tellement accompagnés. L'équipe qui nous accompagne, les encadrants, ils sont juste énormes, quoi. On est vraiment... C'est un cadre qui est assez fou. Et finalement, on se rend vite compte que quand on y est, on n'est pas tout seul et ça ne sert à rien de réinventer la roue, entre guillemets. Et donc, du coup, on est guidé, on sait vers quoi aller. Il y a beaucoup moins de zones qui sont floues, même s'il y a toujours des problèmes, parce que les problèmes, ça fait partie du business, on va dire. Mais franchement, lancez-vous. Je pense qu'il faut se lancer. Il y a des belles surprises à la clé.
Du coup, moi, je vais avoir la partie. Peut-être, je vais essayer d'encourager ceux qui, à la base, sont un peu effrayés par l'entrepreneuriat, parce que moi, enfin, ça m'était même pas venu à l'idée, parce que c'était quelque chose qui me fait très peur, qui me fait encore parfois très peur. Je pense que de toute façon, voilà, le fait de douter, c'est justement, ça fait partie aussi du projet global, et c'est ce qui fait qu'on s'améliore et qu'on va toujours plus loin. Mais effectivement, en fait, cette sensation de saut dans le vide, comme disait Alexandre, qu'on peut avoir quand on n'y est pas, en fait, effectivement, elle est très présente. Mais une fois qu'on y est, on se dit, bah non, mais pas du tout. En fait, c'était juste une petite marche. Voilà, on est juste allé à la porte d'en face et ça se passe très bien. Et du coup, voilà, moi, j'ai juste envie de dire que je regrette pas du tout mon choix. Je m'éclate. Tous les jours, je m'éclate. Et même si des fois, il y a des petites baisses de morale, ben un jour d'après c'est une euphorie parce que on a eu un truc super positif. Et donc voilà, n'ayez pas peur. De toute façon, tout est formateur en tant que thésard, comme je vous ai dit, on peut tout faire. Donc franchement, n'ayez pas peur de vous louper parce que vous louperez pas. Et voilà, entourez-vous. Ça, c'est un conseil qu'on nous a donné à nous au départ. On nous a dit qu'il fallait toujours bien s'entourer, ne pas hésiter à aller voir vers les autres, et ça c'est un réel conseil, parce que c'est vrai que dans le monde de la recherche il y a une petite compétition d'ego, je sais pas si c'est pareil partout, alors qu'en fait dans le monde de l'entrepreneuriat c'est pas le cas. Les gens sont bienveillants, ils adorent discuter avec vous, ils adorent nous soutenir, ils adorent nos projets. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas à aller dans ce domaine là parce que les gens sont super.
Bah, du coup, je vais essayer de conclure après Alexandre et Lucie. C'est pas évident. Ils ont donné de très, très bons conseils. Moi, le conseil que je donnerais, c'est foncer, parce que c'est une aventure humaine qui est vraiment incroyable. Comme l'a dit Lucie, je pense que à partir du moment où on a fait une thèse, on sait ce que c'est la difficulté. On sait appréhender pas mal de choses. On sait résoudre pas mal de problèmes. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment se créer ses propres opportunités. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On est souvent, voire même tout le temps, très très bien entouré. Donc, on n'est jamais tout seul. On fait pas tout seul parce que on peut pas entreprendre tout seul. C'est très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous cache pas que c'est pas non plus facile tout le temps. Enfin, on n'a pas une certitude de réussir. Enfin, c'est comme tout, quoi. C'est comme la thèse. C'est comme tout. Donc, c'est jamais tout rose, mais c'est quand même une aventure qui permet vraiment de se découvrir, de rencontrer vraiment des gens de toutes les cultures, de vraiment que ce soit business, scientifique, on est amené à rencontrer vraiment beaucoup de monde, et ça c'est un kiff pour moi. Donc vraiment n'hésitez pas, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser, que ce soit à vos directeurs, à votre entourage professionnel, enfin. Il y a énormément de structures et de personnes qui sont là pour vous accompagner. Donc, au moindre doute, à la moindre question, n'hésitez pas à aller les poser. Vraiment, soyez curieux et n'hésitez pas.
Je mets vos liens LinkedIn pour que justement, si des gens veulent vous contacter et vous poser des questions, ils puissent vous contacter.
Avec plaisir. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est Abib, juste ce que disait Abib, c'est vrai que c'est aussi beaucoup, beaucoup de belles rencontres. Et ça, c'est C'est top.
Bon, en tout cas, merci à vous trois. Moi, de toute façon, je suis convaincue que la thèse, c'est le meilleur diplôme pour entreprendre. Et vraiment, vraiment, j'en suis convaincue. Et grâce à vos témoignages, je le suis encore plus. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout jamais à demander de l'aide. Et puis, voilà, merci à vous trois. Merci à Élodie. Élodie, tu voudrais dire quelque chose avant de partir ?
Non, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Merci, merci à vous trois. C'était trois points de vue qui étaient vraiment différents niveau maturité, niveau point de vue où vous en étiez quand vous avez candidaté, tout ça. J'ai trouvé vraiment ça hyper cool. En tout cas, merci à vous trois.
Et bon courage à toutes et à tous pour celles et ceux qui le testeront. Et on espère que ça fonctionnera. Et puis voilà, à une prochaine. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Bon courage.
Au revoir.
Bye.
Voilà, ça y est, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. C'était un podcast Beyond Research pour BPI France. À bientôt !